Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous être déplacés donc pour cette conférence, cette rencontre avec Jean-Paul Kaufmann. Bonsoir Jean-Paul Kaufmann.
Bonsoir.
Nous sommes ensemble pour une heure pour parler de votre dernier ouvrage, Venise à double tour. Alors pour ceux qui vous retrouvent ou qui vous connaissent moins, donc Jean-Paul Kaufmann, vous êtes une formation de journaliste, vous êtes aujourd'hui écrivain, vous vivez dans la région, vous connaissez bien Bordeaux, ses vins, ses paysages. Vous êtes aussi un connaisseur de lieux beaucoup plus éloignés, notamment des îles du sud de l'Atlantique, l'île où Napoléon a été exilé. Les îles des terres australes et arctiques françaises, les Kerguelen. Voilà, vous nous retrouvez dans un lieu beaucoup plus couru par les touristes en particulier, puisque vous avez choisi la ville peut-être la plus touristique du monde, je parle sous votre contrôle, mais je ne pense pas beaucoup me tromper, donc Venise, pour vous isoler. Ça paraît assez curieux, mais pourtant c'est vrai. On va voir avec vous, Jean-Paul Kaufmann, que vous avez réussi... avec votre épouse Joëlle, donc à vous installer à Venise et à vous retrouver presque seul, je dirais, parce que vous êtes parti à la recherche de lieux qui ressemblent un peu peut-être au Kerguelen ou donc à Sainte-Hélène, au sein même de Venise, qui sont ces églises et ces églises fermées. Voilà, Venise est une grande ville, Venise est une ville phare du catholicisme, c'est une ville musée, une ville dans laquelle le nombre d'églises est énorme, on est peut-être sans doute entre 100 et 200,
140,
voilà, pardonnez-moi, et il y a parmi ces églises des églises qui vous intriguaient plus que d'autres, parce que vous n'avez jamais pu y pénétrer au cours de vos très nombreux voyages à Venise. Voilà, vous avez voyagé longtemps à Venise, vous y êtes allé je ne sais combien de fois, vous nous le direz, mais ces églises vous ont intrigué. Alors vous allez nous expliquer pourquoi, Jean-Paul Kaufmann, pourquoi vous êtes rendu à Venise et pourquoi vous y êtes installé pendant de longs mois. C'est ça, vous avez choisi d'y passer, mais d'y séjourner longtemps, parce que vous allez nous dire pourquoi.
Alors, oui, bonsoir. C'était un rêve que je caressais depuis de longues dates avec mon épouse. On se disait, bon, on arrive, je sais pas, à l'hiver de notre vie. Essayons de réaliser, les rêves qui, en apparence, peuvent être inaccessibles. Donc, on avait décidé de passer plusieurs mois à Venise. Et très vite, en effet, s'est imposé à moi cette constatation, ces églises fermées. Hein, et puis, l'être humain aime ce qui est interdit. Hein, et on aime toujours savoir ce qu'il y a derrière une porte fermée, un secret, une présence insaisissable, que sais-je encore. Alors, l'idée du livre ne s'est pas imposée tout de suite, parce que Venise est un sujet éminemment casse-gueule. Hein, vous avez raison, c'est la ville sur laquelle on a le plus écrit, le plus de bêtises aussi, et je suis extrêmement lucide, j'ai certainement ajouté les miennes à l'ensemble. Et il y a cette phrase de Paul Morand, on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'était un peu mon ouvre, enfin, c'était le livre qui était ma référence, et j'ai changé d'avis. Morand dit quand même une chose assez saisissante sur Venise. Il dit. Les canaux de Venise sont noirs comme de l'encre, c'est-à-dire c'est l'encre qui a servi à tous ces livres que l'on a écrits sur Venise. Et je parlais des bêtises là tout à l'heure, je pense aussi que c'est la ville qui entretient le plus, disons, d'erreurs autour d'elle, de fausses légendes. Et je pense que ça a toujours été le cas depuis la création de cette république. Je pense que Venise a laissé faire toutes ces fausses légendes, ces erreurs qu'on entretenait sur elle. Et ça a été une manière pour elle aussi de se protéger et de garder son identité. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a quelqu'un qui a compris ce qu'était devenu Venise à la fin du XVIIIe siècle. C'est un Toscan d'origine, devenu génois. Vous savez que les Génois détestent Venise. Et cet homme-là, c'est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte a dit... Je serai un Attila pour Venise. Il a tenu parole et c'est lui qui, en 1797, a rayé d'un trait de plume cette république parce que elle était. Il s'était rendu compte qu'elle était termitée de l'intérieur. Les empires ne meurent pas par la pression de l'extérieur des barbares. Venise était travaillée par une décadence qui durait déjà depuis un siècle. Et il lui a jeté un coup de pied et ça a été la fin de Venise. Donc les légendes, etc., là, je crois que c'est ça aussi qui lui a permis de durer à Venise.
Vous dites quelque part que cette ville qui est traversée par des millions de touristes et qui ne contient plus qu'environ 54 000 natifs, 54 000 habitants, ce qui est très peu, évidemment, pour une ville de cette importance. Vous dites cette ville, malgré tout, elle est construite sur un marécage. Mmh. Et au départ de son histoire, c'est quand même un de ces endroits que vous auriez aimé, c'est-à-dire un lieu, un non-lieu d'une certaine manière. C'est-à-dire un marais dans lequel les hommes ont peu à peu... Que les hommes ont peu à peu solidifié pour y établir une ville, mais qu'au fond, l'esprit de Venise n'est pas l'esprit d'une ville qui a été de toute éternité une très grande ville peuplée, un très grand lieu. Au fond, il reste quelque chose de cette vacuité. C'est ça qui vous
plaît ? Oui, tout à fait. C'est vrai que je voulais pas m'attaquer à une ville comme celle-là, parce que, bon, en effet, mes sujets, c'est des lieux un peu périphériques, dans l'entre-deux, un peu flottants. Et Venise, apparemment, ce n'est pas le cas, mais la création de Venise, vous avez tout à fait raison, ce sont des gens qui ont fui la terre ferme, qui se sont établis sur la lagune et qui, peu à peu, ont colmaté là, ces presqu'îles, etc., cette boue, hein, ils l'ont concrétisée au propre et au figuré. Et ce qui dément d'ailleurs tout à fait cette légende aussi que Venise a entretenu sur elle-même, à savoir que c'était, il y a une prédestination divine, hein, elle était déjà désignée par Dieu, mais c'est absolument pas le cas. Il y a d'autres îles qui auraient pu connaître un destin identique, et il y a un cas qui est extrêmement intéressant, c'est celui de l'île de Torcello qui est abandonnée. Je ne sais pas si vous avez visité Torcello, garde encore depuis le Moyen Âge ce côté vide, mais Torcello aurait pu être une autre sérénissime, mais il pouvait pas en exister deux. Donc Venise est chargée de.
Si on se reporte d'ailleurs à la fin de l'Empire romain, il y avait une ville aux environs qui était beaucoup plus importante.
Oui, à Aquila.
Et puis Ravenne,
bien sûr. Donc,
voilà, oui. Des villes qui, dans les environs de Venise, évidemment, ont une autre histoire.
Hein. C'est ça, oui. Mais en plus de ça, par rapport à cette ville, vous voyez, on parle toujours, on dit, bon, l'Acqua Alta, cette ville va finir par être submergée. Mais la hantise de la disparition existe depuis le début. Dès la fondation, cette ville cohabite avec cette anxiété de la disparition. Je ne pense pas que d'ailleurs pour aujourd'hui ce soit l'Acqua Alta, la submersion qui la menace. Je pense qu'en effet, c'est ce tourisme mondialisé, cette caricature. Hein,
c'est une autre submersion, bien sûr.
Ah oui, tout à fait. Et puis qui pose des problèmes. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. On va vraisemblablement instaurer un numerus clausus parce que là, c'est. Vous parliez 54 000 Vénitiens, c'est une espèce en voie de disparition. Combien il y a de touristes par an à Venise, vous savez? Combien?
30 millions.
30 millions. Donc 54 000 chaque année, il y en a un peu moins, 1000 de moins. Un jour, il y aura plus de Vénitiens. Et ils sont un peu responsables aussi d'ailleurs, parce que il est pratique pour ces Vénitiens aussi de louer un Airbnb leur appartement, puis ils vont vivre à côté.
Et ce sont ces gens-là qui manifestent. Vous l'avez.
Ben oui, c'est ça aussi là. Oui, contre le tourisme, etc. C'est pas. Enfin, j'en parle un peu dans mon livre. C'est pas le côté plus sympathique hein, de ces Vénitiens. Le touriste doit cracher, doit rendre. Hein. Il y a quand même dans cette ville, c'est une ville de marchands. Il y a quand même l'âpreté des débuts hein, n'a pas disparu. Elle est toujours là.
Alors vous avez dit que c'est une ville bâtie sur le marécage, donc on imagine sur pilotis. Mais cependant, c'est quand même une ville de pierre. Et vous faites de longues allusions assez précises même à cette pierre très particulière de Venise qui s'appelle la pierre d'Istrie, qui est une pierre extraite de l'autre côté de la lagune en Croatie, oui. une pierre qui a des caractéristiques très particulières. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette pierre d'Istrie?
Ben, cette pierre, on parle toujours, on imagine toujours que Venise est une ville de marbre. Il y en a assez peu, il y en a, mais en fait, l'habillage de cette ville, cet aspect somptueux, est dû pour une large part à cette pierre d'Istrie, qui est une pierre tout à fait miraculeuse. Sans cette pierre d'Istrie, on pense qu'il n'y aurait pas eu de Venise, une pierre compacte et qui, à mesure qu'elle vieillit, devient de plus en plus compacte. Parce que, en effet, le problème de Venise depuis le début, c'est le problème de l'humidité, le problème du salpêtre. Tous les palais, toutes les églises sont. Mais c'est cohabitation, on essaie de tenir hein, ce salpêtre en quelque sorte à distance. Et cette pierre d'Istrie est vraiment faite pour Venise. Alors, dans mon livre, il y a un personnage à un moment que je vois d'ailleurs un peu fugitivement et il me dit cette chose, la pierre d'Istrie, c'est l'inconscient de Venise. Et alors, moi, ça me plaisait bien, cette formule, l'inconscient de Venise. Et malheureusement, j'ai essayé de le retrouver. Je n'y suis jamais parvenu. Mais ce mot-là hante un peu les pages de ce livre, l'inconscient de... Oui, je pense que c'est, d'une certaine manière, cette part... qui n'est pas dite, enfin, je parle beaucoup de Lacan aussi dans Venise à double tour. Je pense que j'ai essayé de développer cet aspect de l'inconscient à travers cette pierre d'Istrie. Je crois qu'il vaut mieux lire le livre,
oui, mais alors c'est. Vous avez parlé de Lacan, on va revenir à Lacan, mais au fond, cette pierre presque invulnérable, enfin, qui en tout cas qui a des capacités de solidité, de résistance incroyable, en plus qui est très belle, elle est belle comme de l'ivoire, elle a quelque chose d'assez mystérieux. Elle s'appareille aussi avec beaucoup de briques, c'est-à-dire la brique, c'est-à-dire un matériau plus populaire, plus je dirais, moins chic d'une certaine façon.
Oui, beaucoup d'églises d'ailleurs.
Mais qui se marient bien, Hein, il y a ce dialogue entre la brique et la pierre.
Très bien, oui. Il y a beaucoup d'églises, d'ailleurs, San Lorenzo, on n'avait pas assez d'argent pour l'habiller de cette pierre d'Istrie. Il y a beaucoup de façades, beaucoup d'églises, donc on ne voit que l'appareillage en brique. En effet.
Alors, on va venir aux églises. Juste un mot sur la solitude dans la foule, c'est-à-dire que vous êtes venu vous installer, si certains connaissent Venise, vous allez sur une île qui s'appelle la Giudecca.
Oui, qui est en face de Venise.
Voilà, qui est en face de Venise, donc une île qui est a priori un petit peu plus tranquille, mais enfin tout est relatif.
De moins en moins.
Tout est relatif. Ouais. Comment peut-on conjuguer vous dites par exemple le bruit des valises à roulettes. Vous avez le bruit des touristes qui arrivent avec des valises à roulettes. Je n'entends plus les valises à roulettes. J'en fais abstraction d'une certaine manière, mais quand même indépendamment de ça, comment faites-vous pour vous avez choisi un logement un petit peu en retrait, avec une terrasse qui donne sur la lagune. Comment avez-vous fait pour vous retrouver un peu avec une sensation d'être tranquille à Venise, d'être très tranquille et d'être voilà, à votre aise. Et...
Mais oui, mais je pense que malgré ces 30 millions de touristes, c'est ça aussi le paradoxe de Venise. Vous voyez, hors l'axe, en dehors de l'axe Rialto, Place Saint-Marc, où alors là, véritablement, certains jours, le dimanche ou le samedi, donc en week-end, c'est impraticable. Mais il y a énormément de lieux pas très loin où il n'y a personne. Pratiquement désert. Alors en effet, la Giudecca, c'est une île qui se trouve en face Venise. C'est là où on a, à mon avis, la plus belle vue. Et moi, je conseille d'ailleurs, pour ceux qui vont à Venise, c'est peut-être de choisir cette île, cet endroit, parce que c'est encore une Venise d'il y a une trentaine d'années. Vous voyez, une Venise encore avec... il y a l'agora, il y a les gens qui se promènent, une certaine
lenteur. Il y a encore des épiciers.
Oui, il y a des commerces, bien sûr. Il n'y en a plus à Venise, dans le centre historique. Et bon, elle se boboise, elle se gentrifie, comme on dit aujourd'hui. Donc, je pense aussi que c'est la fin. Bon, mais j'ai essayé d'en profiter. Mais bon, c'est vrai que lorsqu'on est à la Giudecca, on est aussi dans une position que j'aime bien, moi, qu'une position peut-être de voyeur, c'est-à-dire que vous regardez, mais vous n'êtes pas vu. Hein, et c'est cela, au fond, quand vous parlez de retrait, c'est un peu ce que j'ai pratiqué pendant ces mois que j'ai passé à Venise.
Il y a une page
d'isolement, oui, vous avez raison.
Il y a une page dans laquelle vous allez, alors on va parler de l'enquête, mais dans laquelle vous allez rencontrer donc quelqu'un d'important là, pour votre enquête, car il s'agit d'une enquête. À un moment donné, vous êtes sur une loggia, au-dessus, pas loin de la place Saint-Marc, finalement, vous avez rendez-vous. Et là, vous nous expliquez qu'au fond, alors que le quartier est totalement investi par le tourisme, on est étonnamment tranquille et l'endroit est étonnamment silencieux et on domine ce centre de Venise sans être vu. Ça, il y a beaucoup de lieux, y compris dans le centre historique, où on peut être presque seul.
Oui, bien sûr. Oui, bah oui, vous faites allusion là au Palais des Doges, cette terrasse magnifique là où. Oui, enfin, que j'ai eu le privilège d'arpenter.
Parce que vous aviez rendez-vous. Hein.
Parce que, oui. Mais c'est ça aussi qui est bien chez les Italiens. Vous voyez, par rapport au patrimoine, ils n'ont pas cette... un lieu comme le Palais des Doges, il aurait été en France sanctuarisé. Tandis que en Italie, à Venise, eh bien, l'administration, les bureaux logent à l'intérieur de ces palais, de ce palais des Doges, le palais ducal. La surintendance des Beaux-Arts se trouve, en effet, dans ce palais des Doges. Vous voyez, en France, on met sous cloche, tandis que les Italiens, ils ont une sorte de familiarité avec justement leur passé. On marche sur les tombes. Peut-être qu'ils sont moins respectueux que nous. Et donc, voilà. Mais j'ai eu l'occasion, en effet, de rencontrer un certain nombre de personnes. Le grand vicaire aussi, qui se trouve dans...
Alors, on va en parler du grand vicaire, parce que c'est un personnage très important dans le livre. Capital. Oui, puisque... Je parlais d'enquête policière, donc il y a au début du livre une carte de Venise, parce qu'il faut quand même se repérer dans la ville. Il y a la même carte d'ailleurs à la fin du livre, qui est la carte de l'épilogue, où là vous notez vos conquêtes d'une certaine façon, parce qu'en fait vous avez listé les endroits que vous visez, dans lesquels vous aimeriez pénétrer, donc cette quarantaine, vous allez nous en parler, mais environ une quarantaine de lieux qui sont fermés pour des raisons X et Y, et puis au long de votre chasse, vous allez cocher les endroits où vous allez réussir à rentrer. Et alors, c'est extraordinairement compliqué. Hein, parce que... Alors,
Alors pourquoi est-il si compliqué d'entrer? D'abord, pourquoi y a-t-il des églises fermées à Venise? Il y a beaucoup de raisons, mais pourquoi y a-t-il des églises fermées indépendamment du fait que Napoléon Bonaparte en a fermé beaucoup et les Vénitiens le lui reprochent, mais enfin,
le déteste.
Mais il y a aussi beaucoup d'autres raisons qui sont la baisse de la pratique religieuse. Alors expliquez-nous là pourquoi il y a tant d'églises fermées.
En effet, quand j'ai ces églises sur lesquelles on bute perpétuellement. Je pensais en arrivant à Venise que ça allait être un jeu d'enfant, que j'allais me faire ouvrir ces églises. Donc, il a fallu d'abord que j'identifie qui était propriétaire de ces églises. En Italie, il n'y a pas eu de séparation de l'Église et de l'État. Donc, une bonne partie de ces églises appartiennent à l'évêché. Enfin,
ce qu'on appelle le patriarcat.
Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'évêque à Venise, il y a un patriarche. Et j'ai identifié ce personnage et qui se trouve au sein du patriarcat. Et ça a été très compliqué, très compliqué.
La croix et la bannière, pour l'approcher.
C'est le cas de le dire. Et à telle enseigne que j'ai cru un moment que j'allais, à la moitié de mon séjour, je n'avais pratiquement... Je n'avais connu aucune église fermée. Et donc, j'étais sur le point d'abandonner. Et en effet, c'est à la fin que tout cela, finalement, ce travail a fini par payer. Et donc, il était dans l'esquive perpétuellement. J'ai réussi, en effet, un jour à le rencontrer. Et ça s'est plutôt bien passé. Je raconte dans le livre ce moment capital. Et
un très long chapitre où vous êtes avec une traductrice,
avec
Alma, et avec laquelle vous avez une conversation.
Il est coriace,
un peu codé, une conversation.
Oui. Mais puis alors, c'est quelqu'un qui perpétuellement se dérobait. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est converser avec lui, c'était intéressant en effet, mais c'était qu'il m'ouvre ses églises et il me dit finalement à la fin, je peux vous faire ouvrir trois églises, il y en a une quarantaine, j'étais absolument catastrophé et finalement ces trois églises, je n'ai même pas pu les visiter. Lorsque je l'ai rappelé, Alma a essayé presque quotidiennement. Il m'avait laissé purement et simplement tomber. L'ancien enfant de cœur avait été très dépité par ce manque de parole de l'homme d'église. Mais je me suis débrouillé autrement, et en effet, vous avez tout à fait raison, à la fin, j'ai pu me faire ouvrir un certain nombre d'églises. Mais il y a une chose quand même que j'en parle pas dans mon livre de cette histoire-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose de très, très grave de se faire ouvrir une église. Et au fond...
C'était plus sensible que vous me pensiez.
C'était un sujet sensible.
Ça, vous le saviez? Pas tant que ça.
Pas tant que ça. D'abord, là où vous avez tout à fait raison, c'est un constat de défaite, d'une certaine manière. C'est-à-dire que un certain nombre d'églises doivent être fermées parce qu'il y a de moins en moins de fidèles et puis il y a de moins en moins de prêtres. Donc, l'heure est au regroupement. Mais c'était pas la seule raison, parce que lorsque je me suis fait ouvrir la première église, j'ai compris pourquoi. Et c'est un spectacle en effet extrêmement brutal, violent, et je dirais presque scabreux. La première église que j'ai pu, dont les portes ont pu s'ouvrir, c'est quand même un moment vraiment... saisissant. Vous avez les portes. Il y a un suspense. Vous avez les deux portes qui s'ouvrent et il y a quelque chose qui va vous exploser véritablement à la figure. Hein, parce qu'il y a à l'intérieur de ces sanctuaires plongés dans le noir, qui n'ont pas été ouverts depuis des lustres, il y a des églises que je me suis fait ouvrir, qui n'avaient pas été ouvertes depuis 30, 40 ans. Et alors là, il y a une accumulation du temps, des ténèbres, des odeurs. Et tout ça vous éclate à la figure. Et il y a véritablement un moment de sidération. Là, vous avez et vous mettez du temps à reprendre vos esprits parce que oui, c'est un spectacle brutal.
Mais alors, Jean-Paul Kaufmann, quand même, quand on dit église de Venise, on imagine des marbres, des hôtels formidables, des tableaux. Enfin, on imagine des décors baroques magnifiques, y compris dans des églises qui ont été fermées ou dont certaines ouvrent uniquement pour un office, parce que ça aussi, il y a des églises qui sont fermées uniquement pour un, parce que l'office sera dans un mois, dans deux mois. Ce dont il s'agit là, c'est de la découverte d'autre chose. C'est-à-dire que, au fond, on trouve quoi dans ces églises, des églises dont on a enlevé les décors, dont on a retiré tout ce qui avait de la valeur.
Oui, on a essayé de les désosser pour une large part. Bon, mais il y a des choses qu'on peut pas enlever. La première qui s'ouvre pour moi, c'est cette Santa Maria del Pianto qui est magnifique. C'est une
Sainte Marie des Larmes.
Sainte Marie des Larmes, oui, elle méritait vraiment son nom. Elle est située en plus de ça au milieu d'un jardin. Il y a quand même peu de jardins à Venise. C'est une église, c'est vraiment un petit bijou, un chef-d'œuvre de l'art baroque. C'est vrai que lorsqu'on la porte s'ouvre, là, on voit c'est un spectacle de désolation, mais en même temps, il y a encore des statues, il y a des buffets d'orgue, et puis il y a une présence surtout, hein, parce que ces églises-là, en tout cas cette première église, elles sont pas tout à fait moribondes. On voit bien que le principe de vie est sur le point de disparaître, mais il y a quelque chose encore qui subsiste, et c'est ça aussi qui est très émouvant, c'est que pendant la demi-heure où vous allez rester dans cette église, c'est qu'elle va, la lumière va entrer et puis elle va s'animer, hein, elle peu à peu, elle va se mettre à revivre, à ressusciter, et puis après, bon, on referme les portes et c'est fini. Et jusqu'à quand cette église Santa Maria del Pianto, elle va mourir. Je pense qu'elle a atteint un point de non-retour. Il faudrait, pour la sauver, des sommes considérables, parce que là aussi c'est un problème pour Venise, c'est que restaurer c'est très bien, mais ça coûte 10 fois plus cher qu'ailleurs. Hein, il faut apporter toutes ces choses au moyen de bateaux, etc. La couverture là du livre, justement, c'est cette église des Thérésées. Alors cette église là, elle est fermée quasiment depuis Napoléon Ier. Elle est magnifique. Et là, il y a une statuaire très importante. On n'a pas pu l'enlever. Et c'est quelque chose d'exceptionnel.
Alors, vous aimez beaucoup la peinture, et donc vous faites très attention aux tableaux. Il y a beaucoup de tableaux dans les églises de Venise, et des tableaux de très grande facture, de grands artistes connus, Titien, Véronèse, Tintoret, etc., mais aussi d'artistes moins connus. Et alors, vous faites quand même une découverte au cours de votre enquête, puisque donc, vous êtes tous les jours à l'affût, vous planquez, vous passez des coups de fil, vous allez voir des gens, vous allez à droite, vous allez à gauche, vous arpentez cette ville dans toutes ces coutures. Et puis un jour, on vous dit, un de vos interlocuteurs vous dit, mais il y a un musée diocésain. Et dans ce musée diocésain, il y a des peintures. Et en fait, dans ce musée diocésain, où pas grand monde ne va, hein,
personne
ne va pratiquement, il y a, alors là, c'est la caverne d'Ali Baba, vous découvrez des tableaux qui viennent de toutes ces églises fermées.
Exactement, parce que c'est ça aussi Venise. Vous voyez, tout le monde va voir le musée de l'Accademia, mais il y a des musées qui sont pratiquement jamais visités. Le musée diocésain qui est tout à côté du Pont des Soupirs, moi je l'ai visité maintes et maintes fois, j'étais le seul.
Ça paraît incroyable.
Oui, alors c'est un peu l'antre, j'allais dire, du grand vicaire, c'est-à-dire que. Il a toutes ses peintures qui se trouvent dans ces églises fermées, et ben ont été rapatriées dans ce lieu. Et il y a des peintures magnifiques. Hein, qui alors à un moment, je me suis dit après tout, je vois ces peintures là. Bon, est-ce qu'il est nécessaire que je me fasse ouvrir toutes ces églises où se trouvaient ces peintures? Mais en même temps, vous voyez. Elles étaient enchâssées en quelque sorte dans ce biotope qui était l'église où elles se trouvaient. Et c'est vrai que lorsqu'on les voit dans le musée diocésain, elles ont perdu quelque chose. C'est certain. Vous allez me dire qu'il en va de même pour tous les tableaux.
La situation d'un tableau dans une église, elle a toujours une signification, selon qu'elle est au-dessus du maître-autel, dans une chapelle latérale, etc.
Oui, et puis très souvent, d'ailleurs, et surtout à Venise, toutes ces peintures, on ne les voit pas. Hein, elles sont souvent dans la pénombre. Il faut mettre une pièce pour pouvoir. Puis c'est très bref. Non, donc là, elles sont offertes en effet à la vue, mais personne ne les voit. Mais encore une fois, ça a été aussi. Vous avez raison. Une enquête policière avec où le hasard joue un rôle. Avec ses impasses, avec ses coups de théâtre, etc. Et puis aussi, j'ai évoqué cette chose qui est la sérendipité, c'est-à-dire trouver ce qu'on ne cherche pas dans cette ville. Et j'ai eu l'occasion, en effet, j'étais à la recherche de ces églises fermées. Et il y a par exemple ce jardin d'Éden qui se trouve à la Giudecca, qui est le plus beau jardin de Venise, que personne ne visite. Et tout à fait par hasard, j'ai eu la possibilité de...
Si personne ne le visite, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il est fermé.
Il est fermé, mais on pourrait... il est fermé parce que, ça appartenait... je ne vais pas raconter son histoire, ça appartenait à un peintre qui est mort, etc. La fondation ne veut pas l'ouvrir pour un certain nombre de raisons. Et c'est vrai que si on l'ouvrait au public, je pense que ce jardin... n'existerait plus, c'est vrai. Donc voilà, j'ai trouvé aussi des choses que je ne cherchais pas, le palais Labia, cet endroit où le Tintoret a peint le plus grand tableau du monde, qui est un lieu aussi extraordinaire que j'ai eu l'occasion de visiter, là, qui est devenu un atelier de restauration. Donc voilà, j'ai échoué d'une certaine manière dans cette quête là, parce que un certain nombre de ces églises se sont ouvertes, mais en même temps. Au fond, ce que je cherchais véritablement, parce que c'est ça aussi qui est le point de départ de cette enquête, c'est quand même un tableau aperçu lors de ma première visite à Venise. Parce que, moi je parle de ces églises fermées. Ces églises fermées, il y a autre chose derrière ces églises fermées, comme je l'ai dit dans ce livre, tout est parti de l'église dans laquelle, je ne vais pas dire que je suis né, mais l'église de mon village.
Le village s'appelle Cornus, qui est à côté de Rennes.
Exactement.
Vous avez grandi.
Exactement. C'est de là, je dis que cette église, a fait véritablement mon éducation. Et finalement, j'avais depuis longtemps, moi j'ai dû avoir un problème avec les églises, j'ai écrit un livre sur Saint-Sulpice, La lutte avec l'ange, et au fond, mon précédent livre, c'est entré dans cette fameuse église à Hello, où se tenait Napoléon, hein, qui existe toujours. Donc vous voyez, ma femme me dit souvent que je souffre du syndrome paroissial, c'est-à-dire que chaque fois que j'arrive dans une ville ou un village, il me faut absolument aller voir l'église qui est souvent fermée, même si elle n'est pas très belle, c'est vrai. Alors peut-être que j'essaie de retrouver cette présence, parce que c'est ça aussi, une église fermée. On me disait très souvent, mais pourquoi tu t'intéresses aux églises fermées? Il y a tellement d'églises ouvertes à Venise et il est difficile d'en venir à bout. Elles sont belles, luxueuses, il y a tellement de choses à voir. Mais une église fermée, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'il y a d'abord une présence invisible, il y a quelque chose qui reste intact. Et c'est ce que j'ai... Au fond, c'est ce que je cherchais à travers ces églises vénitiennes, parce que j'aurais pu... Pourquoi les églises vénitiennes? J'aurais pu m'intéresser aux églises parisiennes. Il y en a aussi des églises fermées à Paris ou à Florence. Non, je pense que c'était Venise. Et très paradoxalement, la modeste église au fond de Cornu, Ille-et-Vilaine, où j'étais enfant de cœur, finalement... Eh bien, c'était ces églises fermées de Venise qui lui ressemblaient le plus. Parce que, il y avait, cette présence invisible. Et puis aussi, je pense que, parce que ce livre aussi parle du catholicisme, et Venise, véritablement, pour moi, c'est la quintessence du... catholicisme dans sa part, j'allais dire la plus sensuelle.
Hein, la Alors plus... vous auriez pu parler de Rome, vous auriez pu parler de Florence, mais c'est pas Florence, non, c'est Venise, pas Rome, c'est Venise. C'est Venise. Alors pourquoi plus...
Rome, il y a cette espèce de cet aspect grandiose qui est un peu écrasant que vous n'avez pas à Venise. Venise, en plus de ça, et on parlera peut-être de Lacan. Lacan disait que les églises de Venise sont obscènes. Il a raison, c'est vrai que toutes ces nudités, tous ces cornus. Alors, on ne s'est pas fait faute, je suis originaire de Cornu, on ne s'est pas fait faute, là, c'est un peu... Je vous en fais grâce. Donc, Lacan dit, ces cornus sont obscènes, c'est vrai, ils sont exhibés, c'est vrai que dans ce catholicisme, après le Concile de Trente, il est certain que c'est Venise, dans son culte des images, dans cette sensualité qui résume le mieux, je crois, ce catholicisme post-tridentin. Hein, et quand vous voyez, dans toutes les églises de Venise, vous avez, il y a des Sébastiens, des saints Sébastien partout. Hein, ce côté extatique, là, il reçoit des flèches, mais avec une telle volupté. Hein, et c'est peut-être ça dont parle.
Il y a aussi des saints Laurent qui sont atrocement torturés sur le grill. Vous en faites.
Oui, mais avec un luxe. Oui, page, il y a le. Vous avez tout à fait raison. Il y a cette fameuse ce supplice de saint Laurent, là, le Titien. D'ailleurs, quand Lacan venait à Venise, c'était toujours le même itinéraire qu'il avait. Il allait d'abord au Jésuiti pour aller voir le saint Laurent du Titien. En effet, oui, il y a ce corps là qui est en train de grésiller. On sent presque l'odeur quand on y est. Mais en même temps, il y a tous ces corps là, tous ces bourreaux là qui sont en train de s'activer. Et puis il y a quand même saint Laurent entrevoit le ciel. Hein, déjà la volupté de l'au-delà. Donc il y a quelque part une forme, en effet, dans cette peinture-là aussi, de d'obscénité. Donc, vous voyez, c'est par rapport à tout cela aussi que j'ai voulu écrire ce livre.
Il y a quelque chose qui est de l'ordre du pèlerinage. Bon, on l'a compris, vous êtes enfant de cœur, vous êtes de culture catholique, vous revisitez un peu votre catholicisme intérieur, vous trouvez à Venise des échos à la vision que vous avez du catholicisme. Vous avez parlé de Lacan, bon, qui est un psychiatre, un psychanalyste, qui parle beaucoup du catholicisme lui-même, parce que au fond, ça le fascine. Ce qu'il fascine à Venise, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Donc, il voit des énigmes partout, des révélations partout, dans ses tableaux, dans ses monuments. Il est toujours à la recherche, finalement, de l'énigme qui rôde. Évidemment, il y a chez vous un peu de cette recherche, je dirais, d'ordre psychanalytique presque. Est-ce que vous n'êtes pas en train, donc, à Venise, de vous auto-analyser à travers cette recherche à travers l'ouverture des églises fermées? Ou est-ce qu'on sollicite?
Non, je ne crois pas. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour Lacan. D'ailleurs, je le dis un moment, je comprends 4 sur 10 de Lacan.
Et justement, comme tout le monde.
Oui. Et justement, c'est ça qui me plaît, parce qu'il y a un côté mallarméen là, dans la prose.
C'est fait pour.
Oui, c'est vrai, mais il y a des phrases foudroyantes parfois et d'une limpidité là qui vraiment vous saisit. Et c'est ce que j'aime chez Lacan. Oui, d'ailleurs, le catholicisme disait que c'était une religion increvable, et ça serait c'est la dernière qui restera, parce qu'elle s'est donné un sens à toute chose. Il n'a pas tort, d'une certaine manière. Il a écrit, d'ailleurs, il a fait une conférence sur le catholicisme que je cite aussi dans ce livre. Je me suis rendu compte que Lacan, finalement, faisait un peu la même chose que moi, mais il avait beaucoup plus de succès. Il tambourinait sur les portes des églises de Venise et on les lui ouvrait. Et non seulement on les lui ouvrait...
C'est-à-dire qu'il voulait des résultats, Lacan.
Il voulait que son
désir débouche sur une réalisation.
Il était certainement plus persuasif que moi. Et en plus de ça, il demandait au sacristain il était extrêmement... Il avait de l'autorité.
Il avait un très beau Lacan, papillon.
D'apporter une échelle pour aller voir un détail sous un Christ en croix, etc. Et il obtempérait. Donc, il a eu un certain succès. Plus que moi, au début.
Alors, il y a d'autres écrivains que vous aimez citer dans ce livre et qui sont moins attendus peut-être que Paul Morand, par exemple, ou c'est par exemple Jean-Paul Sartre.
Oui.
Il se trouve que Jean-Paul Sartre a beaucoup écrit sur Venise. Pourquoi ça vous intéresse, les pages que Sartre consacre à Venise?
Je pense que c'est lui qui a le mieux parlé de l'eau de Venise. C'est magnifique, c'est malheureux parce que c'est un livre qu'on cite très rarement. C'est d'ailleurs un livre qui a été retrouvé.
Le titre m'échappe à l'instant, redites-moi le titre.
La Reine Albemarle,
La Reine Albemarle.
Ou Le Dernier Touriste. Et il voulait écrire d'ailleurs un livre sur une nausée de l'âge mûr qui se passerait à Venise. Et ces pages qu'il a écrites sur Venise sont magnifiques. C'est une sorte de tentative d'épuisement d'un lieu. Et on a l'impression qu'il a voulu mettre à sec Venise. Il y est presque parvenu. Et il en parle très bien de cette eau, vous voyez, de cette eau croupie qui est noire comme de l'encre, comme on le disait tout à l'heure, mais qui est dégueulasse en vérité, qui sent mauvais, où il y a des légumes monstrueux là qui sont des salsifis là qui sont en train de pousser là dans l'eau là que l'on voit. Il a très bien décrit cela. Et alors c'est des pages qui sont très souvent inachevées. Alors il recommence sur son ouvrage. Vous voyez, ça me fait penser un peu, je ne sais pas si vous connaissez le texte de Georges Perec, Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. J'en ai beaucoup parlé quand j'ai écrit ce livre sur Saint-Sulpice. Georges Perec se trouvait sur la place Saint-Sulpice, et puis pendant plusieurs jours, il s'est mis à noter l'autobus qui passe. C'est très ennuyé au début, puis au bout d'un certain temps, il y a une poésie qui s'en dégage. Sartre, c'est un peu la même chose. Oui, c'est une tentative d'épuisement de l'eau vénitienne. Et puis, il y a des métaphores qui sont très, très belles, que je trouve plus belles. J'admire beaucoup Morand, mais je trouve que son Venise a vieilli. Et puis, il fait... Alors, ce que je n'aime pas trop... Vous voyez, j'ai essayé dans ce livre de me conformer au conseil de Mary McCarthy, qui a aussi écrit sur Venise. Elle dit il faut pas faire son malin avec Venise. Hein, il faut pas essayer d'être paradoxal, il faut pas essayer d'être sophistiqué, il faut accepter la beauté de Venise telle qu'elle est. Et c'est ce que fait d'ailleurs Jean-Paul Sartre. Tandis que chez Morand, il y a quand même toujours.
Vous êtes un peu sévère d'ailleurs pour Morand, parce que vous dites au fond, les pages sont très belles, mais on se souvient de rien.
Oui, c'est ça aussi. C'est ça un peu Morand. C'est que on est ébloui, et puis le lendemain, on se dit bon, qu'est-ce qu'il y a ? On s'en souvient plus. On se souvient de ce que.
Ce qui n'est pas le cas avec Sartre ou.
Ah non, certainement. Donc j'ai voulu aussi. Me choisir des intercesseurs, des médiateurs qui étaient peut-être plus inattendus.
Enfin, il y en a qui était assez intéressant. C'est Hugo Pratt. Hugo Pratt. Alors pourquoi Hugo Pratt? Donc vous avez rencontré déjà.
J'ai visité Venise avec lui.
C'est avec Hugo Pratt que vous découvrez un peu le Venise secret. Hein.
C'est ça, exactement. Il m'avait parlé, j'ai fait ce voyage avec Hugo Pratt à l'époque où j'étais au Matin de Paris en 83, et donc j'ai passé 4 jours avec lui à Venise, et c'était un personnage qui était très drôle, qui avait un sens de la dérision. Je me suis beaucoup amusé avec lui, mais il me parlait de ces églises. Il m'a dit ces églises sont fermées, elles doivent le rester. Un secret doit être gardé. Et il m'a appris aussi une chose, c'est à ne pas regarder l'eau de Venise, mais à regarder en hauteur. Et c'est vrai, il y a plein de choses que l'on voit, que l'on est censé voir et que l'on ne voit pas. Ce que j'appellerais l'invisibilité de l'évidence. Vous voyez, un détail au-dessus d'une porte, etc. On passe devant, personne ne voit. C'est un peu comme dans la lettre volée de Edgar Allan Poe. Vous voyez, on cherche une lettre compromettante, on la cherche dans l'appartement, on désosse les murs, on sonde les parquets, on les soulève. Et la lettre, elle est bien en évidence, posée sur le bureau. On la cherche partout, elle est là, sur le bureau, bien en évidence. Venise, c'est un peu cela aussi. Et le conseil que me donnait Pratt, c'est... se conforme peut-être à ce que je viens de dire, là.
Et alors donc, tout au cours de cette enquête policière, donc vous avez des intercesseurs, donc des écrivains, donc vous en avez un petit peu parlé, et puis aussi des gens qui physiquement vous aident dans vos rendez-vous. Et alors, donc, on a parlé du grand vicaire, donc qui est l'homme du patriarcat chargé de la pastorale du tourisme, d'ailleurs. Et
oui.
Donc, on pourrait imaginer...
Mais il en parle très bien, hein.
D'ailleurs, on pourrait imaginer qu'en tant que pâtre du tourisme, il puisse ouvrir assez facilement les églises à ceux qui le demandent, mais enfin, c'est pas le cas. Mais vous avez aussi, vous entrez aussi en contact avec des cerfs blancs. Alors expliquez-nous ce que c'est qu'un cerf blanc. Parce que c'est une expression qu'on trouve d'ailleurs dans la quête du Saint Graal de Lancelot du Lac.
Oui, puis dans Ezra Pound.
Et dans Ezra Pond. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cerf blanc?
Les cerfs blancs, c'est ces animaux fabuleux. C'est ces gens qu'il faut rencontrer et qu'on ne peut jamais rencontrer. C'est ceux qui savent et qui ne veulent pas dire, c'est-à-dire les spécialistes, ceux qui savent parler de Tintoret comme personne, ou du Titien, ou de la pierre de d'Istrie. Ce sont des gens qui sont perpétuellement sollicités dans cette ville de Venise, et qui se dérobent perpétuellement, et qu'on ne peut pas voir. C'est ça, on court après. hein, comme une quête impossible. C'est toujours la même chose. Pour moi, c'est un peu, je dirais, le leitmotiv de mes livres, qui est cette phrase qu'on trouve justement dans les romans de la Table ronde. Je cherche ce que je ne puis trouver. Hein, c'est-à-dire que...
Et je trouve ce que je n'avais pas cherché.
Et je trouve ce que je ne cherche pas. Ben, ça a été, c'est ça, je cherche ce que je ne puis trouver. Et la quête est plus intéressante que la conquête. Et dans la chasse au trésor, évidemment, c'est la chasse qui importe et non pas le trésor. Et puis, bon, moi, je préfère finalement le combat à la victoire.
Cependant, vous avez remporté quelques victoires dans ce livre.
Aussi peu.
Quelques-unes. Si vous deviez retenir un moment... un moment quand même, parce que vous parlez d'enchantement, d'émerveillement, quand même, vous en parlez. Hein, vous êtes là, vous dites, c'est pas que de l'effort, hein, ce livre. C'est aussi, il y a aussi quand même des moments d'extase.
J'espère.
Voilà. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire là-dessus?
Il y a pas. Il y a des moments quand même où vous êtes heureux. C'est un livre. Alors, peut-être que j'ai pas assez insisté là-dessus, mais c'est un livre sur la joie. Ce livre, c'est sur le bonheur justement. Quand on est à Venise, on est dans un état de d'alacrité, j'aime beaucoup ce mot, et de bonheur. Parce que vous êtes, les cinq sens sont mis à contribution, et puis ils se répondent entre eux. Vous voyez, l'œil écoute, comme chez Paul Claudel, le goût palpe, etc. Vous êtes dans un... C'est une ville d'ailleurs où, au bout d'un certain temps, on peut qui peut être insupportable. Vous êtes dans un état de griserie, hein, un état de presque d'ivresse. Alors, moi, pendant ces mois que j'ai passé à Venise, c'est vrai que j'étais perpétuellement dans un état, d'exaltation, hein, même si j'essuyais des échecs, parce que je visitais aussi ces églises ouvertes quand même, et puis il y a tellement de choses à voir, et puis se perdre dans cette ville. Donc, au fond, c'est à la fin, là, j'ai l'occasion de visiter aussi, de monter sur des échafaudages sur la place Saint-Marc, où on est en train de restaurer des statues, des têtes de femmes, etc., des dragons. Et là, c'est pareil. C'est des choses que personne ne voit. Hein, alors qu'elles sont... Évidemment, il faut lever la tête. Et personne ne les voit. Personne ne les voit. Alors donc, j'ai pu, moi, les voir... toucher les têtes de lion, etc. Et on les voit très bien en bas, mais personne ne les regarde. Il y a quelque chose, justement, de pathétique. On a l'impression que toutes ces figures, ils sont là, ils disent, mais regardez-nous, on est là, pourquoi vous ne nous regardez pas? C'est ça aussi, un peu, ce séjour à Venise.
Donc il fallait ouvrir l'œil, et donc vous ouvrez l'œil en permanence. Et donc...
Pas uniquement l'œil. L'odorat, parce que l'odorat joue un rôle important aussi dans la découverte de ces églises. Chacune de ces églises a un parfum particulier. Il y a le fond qui est toujours le même, cette odeur de salpêtre, mais il y a aussi d'autres odeurs, le côté calcaire, le côté coquillé de la pierre d'Istrie avec l'humidité. Il y a ces odeurs qui subsistent. Dans l'air subsistent tous ces... tous ces offices, toutes ces cérémonies, toute cette liturgie qui était là.
Si vous parlez...
Il y a des vibrations, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de ces églises. Oui, quelque chose qui s'apparente peut-être à un côté fantomatique. On entend des voix.
C'est ça,
la littérature.
Vous parlez aussi beaucoup du...
Si on ne croit pas aux fantômes, on ne croit pas... Ouais. Hein, croire à la littérature, c'est croire aussi...
Et vous ouvrez l'oreille aussi, parce qu'il y a des silences aussi. Il y a des silences de qualité différente, hein, que vous
détectez. Oui, aussi. Bah, oui, Louis, en effet, joue un rôle très, très important aussi dans ce livre. Et lorsque l'on est à Venise, les sons n'ont pas du tout la même tonalité, la même chair qu'ailleurs, à cause précisément de cet élément liquide. Vous voyez, quand vous êtes... quand vous contemplez le canal de la Giudecca, là, vous avez tout ce ballet des bateaux, des vaporetto, le bruit de moteur, c'est pas très poétique. À Venise, bien si ça l'est tout à fait poétique, vous avez une espèce de réverbération et c'est magnifique. D'ailleurs, je cite dans ce livre, ce musicien, ce compositeur qui est né à la Giudecca, qui s'appelle Luigi Nono et qui a très bien décrit et rendu dans sa musique l'exceptionnelle tonalité là des sons vénitiens. Et d'ailleurs, cette église San Lorenzo dont je parle, il a eu lieu en 84 un événement musical que l'on dit comparable au Sacre du Printemps, qui est le Prométhée de Luigi Nono dans cette église qui est fermée. Et ça a été un événement musical considérable, avec l'appareillage de Renzo Piano, etc. Il y a 400 personnes ont pu assister à cet événement et qui a laissé un souvenir.
Voilà, vous auriez aimé.
Mais j'étais à Venise en plus de ça à cette époque-là, mais je m'intéressais pas trop à la musique de Nono. Luigi Nono. Luigi Nono, il faut quand même au départ un peu s'accrocher, hein. Mais alors, on est récompensé.
Alors, ça sera ma dernière question, et donc elle porte sur cette notion de fermeture, d'enfermement. Bon, tout le monde sait que l'épreuve que vous avez subie au Liban, et si j'en parle, c'est parce que vous en parlez de vous-même dans le livre. Quel est le lien que vous tracez entre finalement votre expérience de l'enfermement en 3 ans, donc dans des circonstances difficiles, et puis cette recherche de lieux fermés dans une ville aussi ouverte, en apparence en tout cas aussi ouverte, rechercher des lieux fermés dans une ville ouverte avec une telle un tel acharnement, voilà. Est-ce que
oui, c'est évident qu'il y a un lien, mais bon, vous voyez, ces églises, elles étaient ouvertes de l'extérieur. Hein, je n'étais pas à l'intérieur, hein, enfermé. C'est un homme libre qui se fait ouvrir ces églises, hein, et donc elles s'entrouvrent, elles s'ouvrent. Et c'est tout à fait différent. Hein, je suis être à l'intérieur et être à l'extérieur, c'est tout à fait différent. Mais bien sûr, quand on est à l'intérieur, on essaie de regarder à travers le trou de la serrure, voir l'extérieur quand c'est possible. Mais c'est ça qui est la différence, je crois. Fondamentale, mais bon, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Tous ces livres que j'ai écrits racontent et rôdent toujours autour de cette histoire d'enfermement, d'essence aussi. Hein, c'est vrai que quand vous êtes enfermé, vous avez une acuité par rapport au son. Vous savez tout ce qui se passe à l'extérieur de votre cellule, les odeurs aussi, donc tout ça. Le noir, les ténèbres, le silence, c'est ça aussi les églises fermées. Et puis une présence invisible. Alors là, ça, on interprète cela à sa guise. Hein, ça, je n'impose rien à celui qui.
En tout cas, peut-être votre livre pourra-t-il contribuer à faire rouvrir certaines de ces églises, peut-être même à lancer un élan pour des travaux de restauration de certaines.
Certaines églises se sont ouvertes. Hein. San Lorenzo, par exemple, dont je parle, qui est magnifique, et elle s'est ouverte 2 mois Et puis elle vient de se refermer là au début octobre. C'est ça aussi. À la fin de, ce sera, j'en terminerai là. À la fin, je fais j'établis une nomenclature des églises fermées. Il y a quatre catégories. Il y a des églises fermées véritablement ad vitam aeternam. Il y a des églises qui sont ouvertes de manière tout à fait fugitive à l'occasion de la biennale. Il y en a d'autres qui n'ouvrent que pour les offices, pour les messes, comme elles ont lieu souvent à 6 heures du matin, elles sont toujours fermées. Donc, vous voyez, c'est... Mais des églises véritablement fermées, il y en a une vingtaine. Voilà. Merci.